Le journal, Adia Chipoukou.
Bonjour, tout de suite les titres de ce journal. Ambiance inhabituelle depuis hier à Kinshasa. Des milliers de militaires défilent avec leurs armes dans les grandes artères de la ville. L'état-major rassure, c'est un entraînement. Dossier spécial sur cette marche militaire dans ce journal. Nous ferons également un zoom sur la réinsertion des combattants hutu-rwandais à Kigali avec le cas du commandant Abdallah, ancien combattant rwandais réinséré. Processus électoral en RDC, 6 jours après le début des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, l'heure est au bilan. On parle déjà d'une centaine de milliers d'électeurs enregistrés. C'est tout pour les titres, les détails, c'est tout à l'heure. Encore une fois, bonjour. Nous ouvrons ce journal avec un dossier militaire. Ambiance inhabituelle depuis hier à Kinshasa. Des milliers de soldats des forces armées congolaises défilent avec leurs armements dans les artères de la capitale congolaise. L'état-major des FRDC a rassuré que cette marche a pour objectif de renforcer l'esprit de corps au sein de l'armée et d'améliorer l'endurance physique des militaires. Elle vise également à rassurer la population quant aux capacités des soldats congolais de la protection en toutes circonstances. Freddy Lufuluabo a suivi hier la première journée de cette marche. Il nous en fait le point.
Le défilé était organisé ce dimanche en deux pôles. Le secteur ouest avait pour point de départ le stade des Martyrs et s'est dirigé vers la cité Kimwenza au Mongafula. Parti du stade Tata Raphaël, l'escorte du secteur est a terminé sa marche au camp Seta, situé en face de l'aéroport international d'Ndjili. Après un moment de repos sous les eucalyptus d'Ndjili, quartier 1, l'escorte de l'Est a repris sa marche sur le boulevard Lumumba. Le bataillon commando, dirigé par le colonel Kalenga, faisant la queue d'une longue file. À la tête, les éléments de l'état-major de la force terrestre, du groupe spécial de sécurité présidentielle et la police militaire. Pendant que les hélicoptères de l'armée aérienne survolaient le ciel quinois, les véhicules militaires, les lance-roquettes et autres engins légers se mouvaient au sol, conduits ou portés par les militaires en tenues diverses selon leurs unités.
Rappelons que cette marche prendra fin demain mardi. La population est invitée à vaquer librement à ses occupations habituelles dans le calme. Et puis des réactions de la population congolaise au sujet de cette marche militaire. Il s'agit des habitants du quartier Mikondo dans la commune de Kikgasani. Je vous propose de les écouter.
Il faut qu'il y ait d'abord la sécurité. Moi, je suis finaliste. Nous allons commencer l'examen d'état le 11. Il faut qu'il y ait d'abord du calme dans notre pays.
La population quinoise n'a pas de problème avec l'armée congolaise. Mais la population quinoise a affaire aux politiciens congolais. Nous avons confiance en notre armée parce qu'elle est prête à nous soutenir et à défendre les intérêts. Mais si cette armée est venue juste pour soutenir cette classe politique, nous ne serons pas d'accord avec elle.
Ils vont nous protéger avec quoi? Avec quoi? Avec les armes? Non, c'est... ils sont venus c'est pour nous troubler. Il y a des katakata là qui est en train de tuer les gens. C'est quelle protection qui nous protège?
Propos recueillis par Freddy Lufuluabo à partir du quartier Mikondo dans la commune de Kimbanseke. Toujours dans le chapitre militaire, des rumeurs à Kinshasa ont fait état ces derniers jours de la présence des soldats étrangers à Ndjili Brasserie, un quartier périphérique de la capitale. Ces soldats s'exprimant souvent en portugais seraient considérés comme des Angolais. Radio Okapi est descendu ce week-end sur le terrain pour vérifier ces allégations. Les témoignages recueillis sur place révèlent plutôt autre chose. Suivez ce reportage que nous avons réalisé. Il est rendu par Jean-Claude Matande.
Confusion totale, tels sont les termes utilisés par des sources policières du district de la Tchangou pour qualifier ces rumeurs. Ces sources affirment que les militaires rencontrés par les habitants de Ndjili Brasserie au sud-ouest de Kinshasa sont bel et bien des commandos congolais. Ces mêmes sources policières nous ont fait savoir que ces militaires sont cantonnés dans ces quartiers de Kinshasa en attendant leur affectation. Toujours à en croire les dites sources, ces militaires qui sont un bataillon, soit près de 800 hommes, reviennent d'une formation d'un an en Angola, raison pour laquelle ils s'expriment aussi en portugais. Langue officielle de l'Angola. Information identique donnée aussi à Radio Capi samedi par le chef d'état-major général des FARDC, le général Kissimpia, contacté au téléphone. Autre fait relevé par les habitants qui les voient fréquemment, ces commandos se promènent sans armes. Ces habitants d'Ndjili Brasserie rencontrés sont catégoriques. Pour eux, les rumeurs selon lesquelles ces militaires seraient des infiltrés ou des mercenaires angolais sont tout à fait fausses. L'un d'eux s'exprime.
J'ai vu ces militaires, mais ce ne sont pas des étrangers.
ce sont des Congolais. En plus, ils parlent lingala et aussi le portugais. Je crois qu'ils l'ont appris en Angola. Depuis quand sont-ils arrivés ici? Ça va faire un mois et la majorité de ceux qui sont ici ne sont pas armés. Est-ce qu'il leur arrive de sortir de leur camp? Bien sûr, et cela nous avait effrayés de voir des gens qui sont arrivés sans que nous puissions savoir ce qu'ils sont venus faire.
Concernant justement la mission de ces militaires, l'état-major des FARDC affirme sans autre commentaire qu'ils devront défendre la RDC. Dans l'entretemps, ces militaires se tournent les pouces et cohabitent avec la population d'Ndjili Brasserie.
L'actualité est aussi dominée par ces restructurations au sein du mouvement politico-militaire FDLR. Ignace Mouroana Chaka vient d'être réélu président des forces démocratiques de libération du Rwanda. C'est à l'issue de l'élection par les délégués des FDLR réunis samedi dernier à Bonn en Allemagne, rapporte l'agence France Presse. Après cette réélection, le président des FDLR a affirmé que la priorité de son nouveau mandat est de mener à bien le processus de Rome qui prévoit le retour de ses combattants dans leur pays. L'accord de Rome, conclu le 31 mars dernier, n'a connu jusqu'ici aucun début d'exécution. Mais depuis octobre 2002, au moins 8000 ex-combattants et leurs dépendants sont rentrés au Rwanda en provenance de la RDC. La plupart d'entre eux font partie des FDLR. Sur place au Rwanda, un programme de démobilisation et de réinsertion est en place. Certains ex-combattants réintègrent l'armée rwandaise. D'autres, par contre, sont réinsérés dans la vie civile. Reportage sur la réinsertion d'un ancien combattant rwandais rencontré dans la province de Butare au Rwanda par Martin Sibujangwe.
Je fais des activités agricoles. J'aménage déjà le champ de mon papa qui m'a laissé pour trouver à manger à ma famille. Je suis aussi en train de préparer des collectifs. J'ai un collectif d'association des agri-éleveurs.
Il s'appelle Ouintouari Abdallah, un des anciens combattants rwandais retournés dans son pays depuis bientôt une année et demie. Abdallah est parmi ces combattants rwandais démobilisés et réinsérés dans la société. Ancien sergent-major de l'ancienne gendarmerie rwandaise, le commandant Abdallah, connu sous le nom de Chabani, reconnaît que la vie, 10 ans d'absence après, n'est pas chose facile.
On a des difficultés de réinstallation. Vous voyez, quand on est à l'extérieur du pays, ce qui soit à l'intérieur, ils s'organisent. Alors, aujourd'hui, j'ai pas de maison à habiter. J'habite à la maison de mon vieux papa qui m'a laissé.
Dans son quartier d'Embazi, banlieue de Butare, centre du Rwanda, Abdallah a bénéficié du soutien des habitants pendant la réinsertion sociale.
Nous, quand il est arrivé, nous étions très contents de le voir rentrer parce que nous n'avons pas de problème avec lui. Nous l'aidons à la mesure de nos moyens avec les produits de nos champs.
Le gouvernement rwandais attend voir d'autres combattants rentrer au pays, mais pour l'instant, tout porte à croire que l'appel ne trouve pas d'écho favorable du côté des FDLR.
Notez que le commandant Abdallah sera l'invité de la rédaction tout à l'heure à 8h20, heure de Kinshasa. Processus de transition en RDC, le président Thabo Mbeki a dépêché hier un envoyé spécial à Kinshasa. Il s'agit du ministre sud-africain des collectivités provinciales et locales. Sidney Moufamadi est arrivé hier soir dans la capitale congolaise. Il est porteur d'un message du président Thabo Mbeki à son homologue congolais Joseph Kabila. L'envoyé spécial sud-africain n'a fait aucune déclaration à son arrivée à l'aéroport de Kinshasa. Pendant ce temps, le service de communication, presse et informations de la Commission européenne dans la capitale congolaise annonce l'arrivée ce lundi en début d'après-midi du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Ce service indique que M. Barroso devra en principe s'adresser aux deux chambres du Parlement réunies à 15h30, heure locale. Un mot à présent sur les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. 6 jours après le début de ces opérations qui couvrent actuellement 19 communes, l'heure est au bilan. Au moins 76 322 personnes se sont fait inscrire sur la liste électorale lors des 5 premières journées. La distribution du matériel électoral se poursuit jusqu'à la couverture de l'ensemble de la ville d'ici mercredi. Annonce faite par le 2e vice-président de la Commission électorale indépendante, Norbert Basengezi. Il est gentil. Téléphone par Thérèse Bassoubi.
Nous sommes à 76 322 enrôlés sur 483 centres d'inscription. Bandalungwa, 13 318, c'est le nombre le plus élevé. Kisenso, 16, là on a commencé hier. Lemba, 121, là également on a commencé hier. Limete, 323, là également on a commencé hier. Makala 17, là également on a commencé hier. On a déployé aujourd'hui hier à Matete et à Ngaba Et ce matin, nous avons atteint la commune d'Engaliema et celle de Mongafla. Au total, hier, on avait 16 communes où l'on a travaillé. Et le déploiement a atteint aujourd'hui 3 autres communes, c'est que nous sommes dans 19 communes.
Notez qu'à la fin de la 6e journée hier dimanche, ces chiffres ont été revus à la hausse. On parle désormais de 114 661 personnes enregistrées sur la liste d'électeurs.
Il est 7h10 à Kinshasa, 1h de plus en Ituri. La suite du journal avec vous, Adia Chipuku.
L'administrateur du territoire des Rumu et le chef de chefferie de Walendu Bindi en Ituri, pris en otage depuis plus de 3 semaines par des éléments non autrement identifiés. L'information a été confirmée par les chefs de collectivité de l'Ituri. Ces derniers exigent l'intervention de la commissaire de district Petroni Vaweka et de la MONUC pour aider à leur libération. Une demande qu'ils ont faite lors d'une rencontre le mardi dernier sur la pacification, le processus électoral et la restauration de l'autorité de l'État dans l'Ituri. D'autres recommandations ont été faites lors de ces assises. Des précisions avec Dorcas Kankou.
Les chefs coutumiers se disent préoccupés par cette prise d'otage. Dans leurs recommandations aux autorités, ils demandent aussi que la commissaire de district prenne en compte leurs doléances et que leurs capacités et pouvoirs soient utilisés de manière constructive. S'agissant de recommandations au gouvernement de transition, ils souhaitent la sécurisation de l'Ituri en prévision de prochaines élections, souhaitent qu'un pourcentage du trésor public soit utilisé localement pour la subsistance militaire. Ils demandent au gouvernement de prendre en charge les éléments de la brigade FRDC intégrée de l'Ituri et de la police nationale congolaise pour mettre fin au système de la collecte. Le dernier appel est à l'intention de la population de l'Ituri, démasquer les ennemis de la paix et dénoncer tout plan subversif. Ils appellent aussi au soutien du processus électoral et à la protection des humanitaires. Bounia, Dorcas Kankou pour Radio Okapi.
Dans le volet social, une centaine de ménages pygmées formés aux techniques de l'élevage au Nord Kivu. Depuis le début de la semaine, ces familles pygmées suivent une formation à Rutshuru. Objectif, leur assurer une indépendance économique. Pour l'ONG, programme d'intégration des pygmées, ce peuple est trop souvent marginalisé puisqu'il vit toujours de la chasse. Une activité qui, aujourd'hui, ne suffit pas pour assurer leur survie. Écoutons à ce sujet Jean Kibuya Mongali, secrétaire administratif de l'ONG PIDEP.
Les pygmées pensent que pour vivre, il faut aller quémander. Au lieu maintenant de vivre de cette façon-là, la vie des parasites, nous voulons leur apprendre la façon dont ils peuvent se débrouiller seuls pour s'auto-prendre en charge. Nous avons sélectionné parmi les pygmées ceux-là dont nous avons trouvé qu'ils sont capables d'élever, parce que parmi ces pygmées, il y avait ceux-là à l'époque qui tenter d'élever des poules, et parmi ceux-là qui tentaient, on a sélectionné un groupe. Nous allons commencer avec ce groupe, commencer d'abord.
Renforcer les capacités des acteurs des structures des enfants, tel a été l'objectif des travaux sur la protection de l'enfant tenus ce week-end à Mbandaka. Cet atelier a réuni tous les acteurs des structures d'enfants venus des différents coins de la province de l'Équateur. Page internationale à présent, le président soudanais Omar al-Bekir a reçu dimanche le projet de constitution qui doit régir le Soudan pendant la transition de 6 ans. Celle-ci devra débuter le 9 juillet prochain en application de l'accord de paix de Nairobi entre le nord et le sud. Et puis au Kenya, au moins 45 personnes sont décédées et une soixantaine ont été hospitalisées après avoir consommé de l'alcool frélaté. Cette boisson aurait été fabriquée dans le sud-ouest du Kenya. Selon les premières analyses, la boisson baptisée Shanga aurait été corsée du méthanol, un produit toxique utilisé notamment comme solvant et produit antigel dans l'industrie. Enfin, le nouveau président élu de l'Iran a tenté de rassurer l'Occident en affichant une ligne modérée et en réaffirmant son attachement au dialogue avec la Troïka européenne sur le dossier nucléaire. Mais le maire ultra-conservateur du Téhéran, dont la victoire vendredi a provoqué une onde de choc dans les chancelleries occidentales, a tenu à préciser que ces discussions continueraient sur la base des intérêts nationaux de l'Iran. Okapi.